maintenant sur les ondes de Radio Albitzes retrouver votre créneau conférence.
Aujourd'hui, c'est quoi être en bonne santé ? Une conférence du docteur Jean Dubovetsky, enregistrée lors de la 40e édition de la foire Biocibel, la foire à l'agriculture biologique et aux alternatives, organisée par Nature et Progrès de Tarn en juin 2022. A noter que le docteur Jean Dubovetsky propose régulièrement des émissions sur Radio Albitzes. L'émission s'appelle Docteur Antiknox. Une série d'émissions à retrouver en podcast sur notre site radioalbitzes.com. Allez, tout de suite, place au plaisir de l'échange et de la réflexion en compagnie du docteur Jean Dubovetsky et du public de la foire Biocibel qui a bien voulu participer à cet échange autour de la thématique de la santé. En vous souhaitant une bonne écoute.
Bon alors, moi je suis médecin généraliste depuis 1987, donc ça fait un peu plus de 30 ans, installé à Albi dans un quartier populaire donc. Et comme dans toute intervention où un professionnel de santé pourrait parler de médicaments ou de traitements, j'ai l'obligation légale de vous dire si j'ai des liens d'intérêt avec des entreprises ou des établissements qui produisent ou exploitent des produits de santé, ou avec des organismes de conseil qui interviennent à propos de ces produits. Alors, la réponse, c'est non. Je n'ai aucun lien d'intérêt de ce genre, ni personnellement, ni par l'intermédiaire de ma famille. Et vous remarquerez sans doute que de tous les gens qui sont censés dire ou écrire ça, dans tous les articles de journaux, dans tous les livres de médecine, dans toutes les émissions de radio et dans toutes les émissions de télévision où ils interviennent, vous n'en avez pas entendu beaucoup. Alors la question qui... Donc oui, je suis généraliste, c'est-à-dire que on a un proverbe dans le métier qui dit que les généralistes sont des gens qui en savent de moins en moins sur de plus en plus de choses, et les spécialistes, c'est l'inverse. Ils en savent de plus en plus sur de moins en moins de choses, jusqu'au moment extrême où ils savent absolument tout sur absolument rien. Et donc, qu'est-ce que c'est que la santé ? Alors, il y a des gens qui ont tenté de la définir. Ma conclusion, je vais sauter à la conclusion tout de suite, c'est que c'est une entreprise un peu vaine, dans la mesure où la santé, l'idée de santé est très lié à la manière dont on conçoit la vie, sa propre vie, chacun nous-mêmes. Et donc, la définition qui va bien pour moi n'est pas du tout forcément celle qui va bien pour vous. Chacun devrait avoir la sienne. Et alors, ça n'empêche pas que les réflexions qui ont été faites peuvent nous éclairer. Hein. Alors, les dictionnaires disent que c'est l'état de bon fonctionnement de l'organisme ou que c'est un état de fonctionnement régulier et harmonieux. Enfin, ça, la question reste de savoir ce que ça veut dire bon, ce que ça veut dire harmonieux, et qui en juge. Donc, ce sont des définitions qui, à mon sens, ne définissent pas forcément grand-chose. Après, il y a une définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une définition qui date de juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et le même préambule de la Constitution de l'OMS déclare que c'est un des droits fondamentaux de tout être humain. Alors c'est un peu... Ça a des qualités et des défauts, cette manière de voir les choses. La qualité, c'est de se rendre compte que la santé n'est pas purement médicale. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et par exemple, pour être en bonne santé, a priori, il faut être bien nourri, il faut avoir un logement, il faut avoir des vêtements, il ne faut pas être à la rue. Et donc ça déplace le problème de la médecine vers la société. Le défaut de cette définition, à mon sens, à moi en tout cas, hein, c'est qu'elle est totalitaire, hein, puisqu'elle ramène grosso modo toute l'activité humaine à la santé. Et donc la santé serait une sorte de résumé de la totalité de l'activité humaine, ce qui me semble un peu déraisonnable. Et l'autre défaut, c'est que si on prend cette définition au pied de la lettre, quasiment personne n'est en bonne santé. Ce qui est dommage. Alors, ça, c'est des définitions qui sont un peu théoriques. Après, il y a des définitions beaucoup plus pratiques. L'idée, c'est que, l'idée courante, hein, c'est que nous sommes normalement en bonne santé. La bonne santé, c'est notre état initial. Et puis, il peut se produire quelque chose qui va perturber cet état de bonne santé. On va être malade et puis, éventuellement, si on arrive à guérir, on va revenir à l'état normal. Alors, c'est une philosophie de la santé qui convient très très bien au début du XXe siècle. Parce qu'à cette époque-là, ce qu'on savait faire en médecine, grosso modo, c'était identifier certains microbes et commencer à lutter contre eux. Donc, c'était la pensée pasteurienne. Et donc, effectivement, on envisageait que quelqu'un est en bonne santé, un microbe l'attaque, il est malade, et s'il arrive à battre le microbe, il va guérir. Donc ça, c'était la grande nouveauté du début, du fin 19e, début 20e. Et puis, ça correspondait très bien aussi à la chirurgie des traumatismes, qui était très développée parce que c'était la chirurgie de guerre, en fait. Et donc, depuis le début du 19e siècle, depuis les guerres napoléoniennes, il y avait une chirurgie de guerre qui avait été bien développée, d'année en année. Et donc là, effectivement, on envisageait que quelqu'un, un soldat est en bonne santé, on l'abîme, on le répare, et après, il est plus ou moins encore en bonne santé ou pas. Maintenant, de nos jours, c'est une vision un peu dépassée. D'abord parce qu'on a défini des maladies génétiques. Alors, quand on a une maladie génétique, on est malade avant de naître. On est même malade quasiment avant d'être conçu. Donc, alors ça voudrait dire que quelqu'un comme Michel Petrucciani n'aurait jamais été en bonne santé, il aurait été malade tout le temps. Et moi, je trouve ça gênant comme manière de voir les choses. Je connais personnellement dans ma patientèle des personnes atteintes de la maladie des os de verre, comme Michel Petrucciani, et ils ont des périodes où ils se sentent bien, où ils sont actifs, où ils sont heureux, et où j'aurais tendance à penser qu'ils sont en bonne santé, moi. Et puis, il y a plein de gens qui ont des anomalies ou des maladies cardiaques, rhumatismales, allergiques, et qui se sentent quand même en bonne santé. Donc, ça me paraît... Ça me paraît encore une fois un concept un peu difficile. La définition de la santé par la normalité a été très utilisée en médecine. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre médecin et qu'on vous fait une analyse, une prise de sang, en général, on a défini la normalité, alors pas toujours, hein, mais assez souvent, on a défini la normalité de manière purement statistique. Et donc, vous avez, si on a défini la normalité de manière purement statistique, pour chaque examen indépendant, on a 5% de non statistiquement normaux. Donc, par exemple, si vous dosez un truc dans le sang, mettons les gamma-GT, vous avez 2,5% de gens qui sont anormaux parce qu'elles ne sont pas assez élevées et 2,5% de gens qui sont anormaux parce qu'elle est trop élevée. Voilà. Alors... ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est pas normal qu'ils sont malades, mais quand on regarde les analyses, on a toujours tendance à dire puisque c'est pas normal, il y a une maladie. Alors c'est redoutable ça, parce que évidemment, si à chaque examen on a 5% de malades, pour le premier examen on a 5% de malades, il reste donc 95% de gens en bonne santé, on fait un deuxième examen. Donc des 95% de gens en bonne santé, il y en a 5% qui sont malades à nouveau. Donc il reste plus que environ 90% et demi de non-malades. On refait un troisième examen indépendant et ça recommence. Et alors au bout de 10 examens, on a un tiers de gens malades. Et au bout de 20 examens, on a la moitié des gens malades, par définition. Alors, la question est de savoir si on a raison d'aller voir son médecin en demandant un bilan systématique. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un résultat de bilan systématique ? Si la première chose à faire, c'est de ne pas en tenir compte, je me demande si on a raison de le faire. Vous voyez ? Après, C'est très différent si on a des symptômes et que pour ces symptômes, on cherche quelque chose en faisant des analyses. Et si les analyses, elles donnent une anomalie qui correspond aux symptômes, qui a un sens, alors là, c'est très différent. Ça a une valeur prédictive importante et c'est très utilisable. Mais faire des examens systématiques au hasard chez des gens qui se sentent très bien, plus ils sont jeunes, plus c'est bête. Voilà. Alors on va continuer dans les multiples définitions de la santé parce qu'on n'en manque pas. Hein. Y a une santé qui est définie comme le fait qu'on n'y pense pas. C'est pas mal ça non plus. Alors par exemple, Jules Renard qui disait « La meilleure santé, c'est de ne pas sentir sa santé. » Voilà. Je me suis perdu dans mes diapos, moi, non ? Non, non, c'est ça. Ou bien l'état de santé, ça se reconnaît au fait qu'on ne pense pas à son corps. Et puis il y a la définition classique de Le Riche. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Monsieur Le Riche était un professeur de médecine très célèbre, déjà avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a participé à prendre en compte la douleur des patients. Donc il était un des premiers à avoir dit que les gens avaient mal comme ils le disaient, et non pas comme les médecins pouvaient le penser. Ce qui est quand même un peu différent. Et pour dire aussi qu'on peut être très bon d'un côté et très mauvais de l'autre, il a fait partie des gens qui ont fondé le Conseil de l'Ordre des médecins en 1942, et il a personnellement participé à la spoliation des médecins juifs. Donc, voilà, on peut avoir des bons côtés et des mauvais côtés, et voilà. La chose la plus importante dans ces définitions de la santé-là, moi je trouve, c'est que la personne qui est juge de la santé, c'est le patient lui-même, ou la personne elle-même, qui n'a pas de raison que ce soit forcément un patient d'ailleurs. Alors, bon voilà, donc là on arrive à la question suivante, c'est... Et si on définissait la santé par son contraire, c'est-à-dire par la mauvaise santé ou par la maladie? Bon, c'est une autre possibilité, mais... À vrai dire, non, moi je vais me répéter un peu, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de chercher à définir précisément la santé, sauf pour soi-même. Voilà, pour soi-même, il faut savoir ce qu'on veut, comment on veut voir la vie. Vous voyez, pas bon, je vais prendre un exemple personnel un peu bébête, mais je me suis cassé ce doigt là il y a 2 ans, je crois, ou il y a 1 an, et bon voilà, il se plie plus comme avant, il n'a plus de force, la deuxième phalange plie plus, et alors peut-être que ça me rendrait malade si j'étais guitariste ou violoniste, mais c'est pas le cas, donc ça me gêne pas trop. Et pour ce qui me concerne, moi, personnellement, ça ne me rend pas en mauvaise santé. Voilà. Mais c'est personnel. On peut prendre un exemple un peu inverse. Il y a des gens en particulier, quand ils ont été victimes, vous voyez, victimes d'agressions, victimes d'accidents, victimes de viols, victimes de mauvais traitements au travail, il y a des gens qui se sentent mieux une fois qu'ils ont été reconnus comme malades, et que leur maladie a été définie comme due au fait qu'ils sont victimes. Alors ça ne veut pas dire qu'un... Et même le fait de définir ça les aide à aller sur un chemin où ils vont aller mieux. Donc ça ne veut pas dire que, parfois, dans certains cas, le fait de se définir comme malade est un pas en avant, par contre, vers la bonne santé. On va s'arrêter un peu là, si vous voulez parler un peu. Et puis si vous ne voulez plus parler, on continuera après, voilà.
Merci Jean Dubovetsky, ça fait 15 minutes que vous parlez. Est-ce qu'il y a déjà des premières réactions, des questions dans la salle? Je peux passer vous tendre le micro? Non, personne? Bon, très bien. Donc Jean, n'hésitez pas à continuer, puis à interpeller la salle si besoin. Je crois que aussi vous avez prévu de faire un petit sondage.
Oui, mais pas tout de suite.
Pas tout de suite, mais on le fera tout à l'heure.
Oui, oui.
Ok, et donc voilà. N'oubliez pas le micro, c'est votre lien avec la radio, donc mieux vous parlez au micro, mieux le son sera pour les auditeurs de Radio Albigès.
Quand ça ne va pas, il faut me gronder. Donc une fois qu'on, qu'on sait ce que c'est pour nous-mêmes notre santé, ou ce qu'on a envie que ce soit. La question suivante, c'est de savoir, est-ce qu'on est responsable de sa santé ? Alors, dans mon cabinet, en tout cas avec les gens avec qui je cause, en général, la plupart, pas tous, hein, mais la plupart, cherchent une cause à leur maladie, ou à leur bonne santé aussi. Pas une cause externe, parfois il y a une cause externe, mais ça ne leur suffit pas toujours. Par exemple, vous avez quelqu'un qui peut dire « Tiens, j'ai attrapé la grippe en plein milieu de l'épidémie de grippe. » Donc c'est bien une grippe due au virus de la grippe qui est épidémique à cette période-là. Mais ils vont quand même chercher une cause dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'ils n'ont pas fait. Par exemple, « Je suis sorti dehors sans chapeau alors qu'il pleuvait. » Voilà. Ça veut dire qu'on a tendance... à chercher la cause de nos maladies dans notre comportement, en fait. Alors, il y a plein d'exemples. Les gens, ils sont malades parce qu'ils sont sortis quand il pleuvait, parce qu'ils ont trop mangé, parce qu'ils n'ont pas assez mangé, parce qu'ils ont mangé ce qu'il fallait pas, parce qu'ils ont fait trop de sport ou pas assez, parce qu'ils ont fumé, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont pris ou parce qu'ils n'ont pas pris des médicaments. Le point commun, d'une certaine manière, c'est qu'on passe assez vite du fait de se dire « je suis responsable de la situation » à « c'est ma faute ». Et donc derrière cette histoire de responsabilité, il y a une histoire de culpabilité aussi. Alors bien entendu, on a droit au contraire de la culpabilité, c'est-à-dire à la gloire. On est en bonne santé parce qu'on a mangé de tout, ou inversement parce qu'on est devenu végétarien, parce qu'on a une bonne hygiène, ou au contraire parce qu'on nettoie pas trop sa maison, on met pas des produits qui tuent tous les insectes partout, et donc on a une maison qui est saine mais qui est pas forcément hyper propre tout le temps. Parce qu'on marche tous les jours, parce qu'on entretient son moral, parce qu'on fait de la méditation, parce qu'on fait des bilans de santé, ça je doute, mais bon. Ou parce qu'on prend très bien son traitement. Et le point commun de tous ces éléments, c'est qu'on est en bonne santé parce qu'on a bien agi. Alors, il y a là-dedans des éléments de vérité, évidemment. Hein. C'est vrai que... C'est vrai que si on boit 2 litres de vodka avant de prendre la voiture et qu'on finit contre un arbre, on a joué avec le feu un peu quand même. Voilà. Hein. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante ? Et alors c'est là qu'on a le petit sondage. C'est là qu'on a le petit sondage si j'arrive à bouger mon machin. Oui. Le petit sondage. On va chercher... Alors vous allez réfléchir en vous, quels sont les deux facteurs les plus importants qui permettent de prédire si quelqu'un va mourir tôt ou tard, c'est-à-dire quelle va être la durée de sa vie, et s'il a un grand risque d'être handicapé tôt ou tard dans la vie. Alors il y a deux éléments qui permettent de prédire ça, pas pour des individus, mais pour des populations. Hein, et alors c'est quoi ? Eh bien, c'est à toi de bosser maintenant.
Alors comment vous voulez qu'on s'organise pour ce sondage ?
Ah ben, ou bien tu as des petits bouts de papier, ils arrivent à écrire sur des petits bouts de papier.
Non.
Ou bien tu as un paperboard.
Non plus.
Parce que c'est pour ça que je te l'avais dit à l'avance qu'il y avait un sondage, tu vois, pour qu'on arrive à se débrouiller.
D'accord. Bon, on va improviser.
Ou bien alors je prends un bout de papier, moi. Et puis, là, par contre, il faut que je trouve un stylo. Et toi, tu passes dans les rangs et je note les idées.
Ok.
Bon, je crois la capacité de soutenir, de maintenir le corps dans son bon état.
C'est noté.
Par là, j'entends l'environnement.
L'environnement où on vit. L'environnement de son lieu de vie, en fait. Si on vit en ville, à la campagne, et où à la campagne.
Le lieu de vie.
Et suivant aussi comment on se nourrit. L'hygiène.
Ok.
Ok, merci.
Alors, j'ai noté l'hygiène.
L'alimentation et ensuite le niveau social aussi, pour pouvoir se soigner
la nourriture.
Et s'alimenter comme il faut.
La nourriture, c'est très important.
Ok, on va vous laisser le temps d'écrire.
Je me suis arrêté à la nourriture, moi, quelqu'un.
Oui, l'alimentation.
Le niveau social.
Alimentation et le stress.
Le stress.
Hop, par là.
Les conditions de vie.
Les conditions de vie.
L'accès aux soins.
Les conditions de travail.
Les conditions de travail.
Alimentation, vie sociale.
La vie sociale.
Le niveau social.
Oui.
La pulsation cardiaque.
La pulsation cardiaque.
Ok. Alors.
L'alimentation et l'activité physique régulière.
L'activité physique.
Alimentation et environnement.
Alimentation et environnement, on l'avait noté. Voilà, c'est là.
Le pouvoir de s'adapter.
Oui.
Dans la suite de ce que vient de dire la dame, moi je dirais qu'on peut prévoir la mort des gens en fonction de la façon dont ils se prennent en charge. Les gens qui ont besoin de faire 3 visites chez le médecin tous les mois, ou faire un examen tous les ans, ou je ne sais quoi, ceux-là, à mon avis, vivront pas très vieux. Par contre, les gens qui se prennent complètement en charge avec quelques compléments et quelques tisanes, ben, ceux-là, ils ne poseront pas de problème.
L'état d'esprit.
L'état d'esprit.
Ok. Bon, je vois que vous n'êtes pas tous d'accord, que ça en fait rire certains, mais tant mieux.
Oui, ce qui me paraît important, c'est la sociabilité, d'avoir des amis, d'avoir une vie culturelle assez riche, et d'être satisfait de ce que l'on a, d'avoir un certain pouvoir de lâcher prise et d'être cool dans la vie. Ça, je pense que c'est un gage de longévité, à contrario, quelqu'un qui est tendu, qui vit reclus, mais finalement moins d'espoir de vivre longtemps.
Très bien. Alors, je vais là-bas.
Pas très clair, comme je veux dire, mais est-ce qu'au final, tout miser sur la durée de vie ne peut pas nuire à la qualité de vie, en faisant trop attention à tout le temps, et en se stressant pour ça?
Ah oui, alors ça, c'est peut-être une autre question qu'on aura l'occasion d'aborder à la fin du débat, mais c'est intéressant aussi.
Aller vers trop de médecine, quoi, finalement.
La manière d'appréhender les événements.
Ok, et on va terminer peut-être par le monsieur qui est au milieu.
Je vais dire se sentir vivant. Je fais la différence avec être en vie. Se sentir vivant, c'est être là où il faut, quand il faut.
D'accord.
Social ou culturel.
La génétique, quand même, c'est important parce qu'on ne peut pas grand-chose quand on a des parents, des grands-parents qui sont morts de cancer, du même cancer. Donc ça, c'est quand même la génétique, c'est important. Et puis l'hygiène de vie, parce que chaque jour, on a des cellules qui meurent et se régénèrent en fonction de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire. Donc ça, c'est important quand même. Et personne ne semble penser à ça, donc je trouve ça étrange.
L'hygiène de vie.
Bon, merci en tout cas pour votre participation.
Et là,
Jean, est-ce que ça va pour vous? Vous allez pouvoir faire votre petite analyse.
Oui, alors... Donc il y a des choses qu'on peut essayer de classer dans des sortes de catégories, plus ou moins, hein. Il y a des choses qui viennent du corps, on dirait. Alors, par exemple, il y avait... j'essaie de lire toute ma liste. Il y avait pulsation cardiaque. Il y avait... l'hérédité, la génétique, le rythme biologique. Peut-être on pourrait classer ces trois-là dans le fonctionnement du corps. Ensuite, il y avait des choses qui étaient du domaine de la manière de vivre au sens mental des choses. Se sentir vivant, la manière d'appréhender les événements. Ne pas se stresser trop, lâcher prise, être cool, l'état d'esprit, le pouvoir de s'adapter. Je ne sais pas si c'était physique ou mental, mais ça pouvait être les deux. La vie sociale peut-être irait avec ça. Le stress. Après, il y avait des choses qui étaient du domaine du comportement, mais plus du comportement pratique peut-être. La manière de se prendre en charge, le pouvoir de s'adapter, les activités physiques. L'hygiène de vie. La capacité de maintenir son corps, ça je ne sais pas trop où le classer. Et puis après, il y a certaines choses qui semblaient ne pas vraiment dépendre de la personne, mais soit de la société, soit de sa situation. Par exemple, les conditions de travail, l'accès aux soins, les conditions de vie, le niveau social, le lieu de vie, l'environnement. Et puis alors, à cheval sur plusieurs choses, il y a, qui est revenu à de nombreuses reprises, l'alimentation ou la nourriture. Je dis à cheval sur plusieurs choses parce que ça dépend. Quand on vit dans certains quartiers ou dans certaines situations, c'est imposé. Je veux dire, les enfants qui ne peuvent pas faire autrement que de manger à la cantine, ils mangent ce qu'il y a à la cantine, par exemple. Ou bien au travail. Parfois, on mange ce qu'il y a au travail parce que c'est comme ça et pas autrement. Ça peut être aussi une démarche volontaire intellectuelle de se nourrir de telle ou telle manière. Et puis, c'est quelque chose de concret aussi. Donc, on peut dire que c'est un item qui est à cheval sur plein de choses. Alors, j'avais oublié de vous mettre ma jolie petite image que je vais quand même vous laisser. Je vais quand même vous laisser la lire. Ce serait trop dommage de l'oublier. On y voit Shadok Einstein en train d'enfiler des perles et de dire « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès ou de Radio Air d'Otan, vous écoutez une conférence du docteur Jean Dubovetsky autour de la santé. Une conférence enregistrée lors de la 40e édition de la foire Biocibel, la foire à l'agriculture biologique et aux alternatives, organisée par Nature et Progrès Tarn en juin 2022.
Alors en vrai, qu'en est-il ? Eh bien, des deux facteurs les plus importants dans une société donnée. Alors on va limiter un peu, c'est-à-dire que si on prend en France par exemple, les deux facteurs qui ont le plus d'influence à la fois pour l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie en cours de vie. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'espérance de vie pour les gens qui ont déjà 50 ans et qui a le plus d'influence également sur le risque d'être handicapé ou d'être gêné dans sa vie quotidienne par sa santé, les deux facteurs qui ont le plus d'importance dans l'ordre, ce sont le niveau social qu'on peut mesurer par le revenu et le sexe. Grosso modo, entre les gens qui, dans les années 2010, hein, parce qu'on n'a pas de chiffres sur les années 2020, on a des chiffres sur le début des années 2010 en France, ça a été publié par l'INSEE en 2018. Donc entre les gens qui disposaient à cette époque de 500 euros par mois et les gens qui disposaient de plus de 6000 euros par mois, la différence de durée de vie est de un peu plus de 13 ans. Et la différence de durée de vie entre les hommes et les femmes est d'environ 8 ans. Voilà. Alors si on cumule les deux, évidemment, la différence entre les hommes pauvres et les femmes riches est encore plus importante. Ce sont les deux éléments les plus importants. Alors, comment est-ce qu'on explique... machine. Ouais, mais il y a même les chiffres exacts. Formidable. J'ai travaillé plus que ce que je croyais, moi. Comment est-ce qu'on explique ça pour ce qui concerne le sexe ? La génétique joue un rôle. Et ça, on le sait assez facilement parce que l'avantage des femmes qui meurent moins que les hommes, c'est dès la naissance. Voilà, dès les premières semaines de vie, on l'observe. et on l'observe de manière statistiquement significative, et ça ne fait qu'augmenter ensuite. Alors les généticiens pensent qu'il y a le rôle du double chromosome X, c'est-à-dire que les femmes ont tous leurs chromosomes en double, tandis que les hommes, ils ont un seul X et un seul Y. Et donc s'il y a une anomalie sur le X de la femme, elle peut être compensée au moins partiellement par l'autre X qui serait normal, tandis que chez l'homme, s'il y a une anomalie sur le X, rien ne le compense. Et inversement, s'il y a une anomalie sur le Y de l'homme, rien ne vient le compenser. Alors cette théorie-là, elle est confortée par des études animales, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui ont également, suivant les sexes, des chromosomes qui sont pairs ou qui ne sont pas pairs. Et parfois, ce sont les mâles qui ont des chromosomes pairs. Et dans ce cas-là, ils vivent plus longtemps que les femelles. Donc, ça, c'est une première théorie. Mais ça ne rend sûrement pas compte de tout. La deuxième théorie, c'est la théorie des rôles sociaux. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, s'il y a moins de femmes qui travaillent comme maçons, elles seront moins usées par le travail de maçon. S'il y a moins de femmes qui travaillent tout court et que, par conséquent, elles sont moins souvent sur les routes, elles auront moins d'accidents de voiture. Bon, et on peut multiplier comme ça les exemples. Et puis, il y a la troisième explication, c'est les comportements individuels. Les comportements individuels, ils sont à la fois dus aux rôles sociaux et également à la génétique. C'est-à-dire que la génétique masculine chez l'être humain comporte la production de testostérone qui augmente l'agressivité et qui joue certainement un rôle dans le fait que ce sont les mâles qui ont dominé les femelles dans le groupe des humains, au moins jusqu'à maintenant et dans une grande partie de la planète. Hein. C'est peut-être pas vrai partout, et quand on dit quelque chose d'aussi général, c'est certainement faux quelque part un jour. Mais globalement, les femmes ont été dominées, et c'est partiellement, probablement aussi pour des raisons génétiques. Ce sont les raisons génétiques qui expliquent aussi que les hommes sont physiquement plus forts, de manière générale, et ça participe de la domination, ou ça a participé à établir la domination qui a pu se poursuivre pour d'autres raisons ensuite. En tout cas, ça joue un rôle sur le comportement individuel. C'est-à-dire que il y a toujours eu plus de soldats masculins que féminins, quand même. Et donc, ils sont morts plus souvent à la guerre. Voilà, c'est... Alors, il y a des évolutions, mais je ne suis pas sûr qu'elles arrivent à une égalité. Ou plutôt, je pense le contraire, voilà. Et les comportements individuels jouent aussi un rôle dans la prise de risque. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à prendre moins de risques et, d'un certain point de vue, à être plus sages, entre guillemets, que les hommes. Elles fument moins, elles boivent moins, elles se battent moins, elles roulent moins vite en voiture, elles ont moins d'accidents automobiles, même à nombre de kilomètres égal. Donc si on prend par exemple la mort par accident de la voie publique, les hommes meurent plus que les femmes par accident de la voie publique, à la fois parce qu'ils conduisent plus et parce qu'ils conduisent plus mal. Il y a les deux. Voilà. Après, je suis pas sûr de tout expliquer, moi. Je donne des pistes, mais... Après, pour le niveau social, les explications sont assez évidentes. Hein. On meurt moins quand on est bien logé, quand on est bien nourri, quand on peut se reposer bien, quand on fait des métiers moins fatigants, et ainsi de suite. Alors ça se voit... Même très récemment, on l'a constaté encore au cours de l'épidémie de Covid. Hein, et c'était très clair, par exemple, que dans la région parisienne, on est beaucoup plus mort en Seine-Saint-Denis qu'aux alentours de Versailles. Ça, aucun doute à ce sujet. Et c'est arrivé tout de suite. Alors après, il y a bien sûr les conditions de vie qui jouent un rôle important. Moi, parmi les gens que j'ai soignés, au cours de l'épidémie de Covid, j'étais frappé. Il y a une famille, ils vivaient à 7 dans un appartement HLM prévu pour 3. Donc il y a un enfant qui a attrapé la Covid et il l'a refilé à tout le monde. Donc ils ont attrapé tous les 7 la Covid. Et sur les 7, il y a le grand-père qui est mort. Et d'une certaine manière, c'était pas très étonnant parce que c'était le plus âgé. C'était un homme. Il avait travaillé comme maçon. Il avait un peu bu beaucoup dans sa vie et il continuait de fumer deux paquets de cigarettes par jour. Donc il y avait toutes les conditions pour qu'il meure plus vite que les autres. Et en même temps, ce serait assez agressif vis-à-vis de lui et des gens qui sont comme lui que de dire que c'était de sa faute. Je veux dire, c'est pas en réduisant ça au fait qu'il fumait. Et même s'il fumait, est-ce qu'il était totalement responsable du fait qu'on lui avait appris à fumer quand il avait 13 ans et qu'il avait toujours vécu dans un milieu où fumer était normal? La question de la responsabilité individuelle au niveau de la santé est une question qui me trouble toujours parce que c'est vrai qu'en changeant les comportements, on peut améliorer certaines choses, pas tout, mais certaines choses. Et en même temps, développer la culpabilité me semble une entreprise néfaste. Voilà. Donc les conditions de vie, les rôles sociaux jouent un rôle évidemment. La redistribution sociale joue un rôle très important. Alors, le cas de la Seine-Saint-Denis est typique, hein, c'est un endroit où il y a quand même moins d'enseignants, moins de médecins, moins d'infirmières, moins de places dans les hôpitaux qu'aux alentours de Versailles. Alors la question de la redistribution sociale, il ne faut pas non plus se tromper. Par exemple, prenons le cas de l'assurance maladie. Il est très clair que le fait d'avoir une assurance maladie qui couvre la quasi-totalité de la population est un gros avantage pour la santé publique. C'est assez facile de comparer des zones géographiques où il y a ou bien où il n'y a pas cette assurance maladie. Par exemple, pour prendre un exemple classique, comparer le bloc européen avec l'Amérique du Nord. L'état de santé général de la population est bien plus mauvais aux USA qu'en France, par exemple, ou en Allemagne. Ça fait aucun doute. D'un autre côté, se dire ça et en être satisfait est une chose, mais il faut voir l'évolution dans le temps récente. Et l'évolution dans le temps récente dans notre pays, c'est pas une amélioration de la redistribution sociale, y compris au sein de l'assurance maladie. Il y a clairement de moins en moins de personnes qui sont admises comme ayant une maladie de longue durée, et pas parce qu'il y a moins de malades, mais parce que il y a de plus en plus de restrictions. Il y a également un certain nombre de traitements ou de services qui ne sont accessibles que quand on a une assurance maladie normale et qui ne sont pas accessibles, par exemple, quand on est à l'aide médicale d'État. Et donc, il y a aussi la question des comportements individuels, mais qui pose le problème général de savoir jusqu'à quel point nos comportements individuels sont induits par notre éducation, par notre situation sociale, par notre entourage, par notre travail. Et donc la question de savoir jusqu'à quel point on contrôle nos propres comportements. Et quand on croit les contrôler, est-ce que ça n'est pas surtout parce que on fait partie des dominants de notre société? Je veux dire, les gens qui sont très contents de maîtriser leur alimentation, leur temps de travail, leur activité physique, souvent, je ne veux pas dire qu'ils ont tort d'en être mécontents, mais je veux dire qu'ils ne réalisent pas à quel point ils sont privilégiés de pouvoir le faire. Et voilà, on se fait une pause pour une discussion avec une nouvelle devise Shadok pour faire méditer les auditeurs de Radio Albitzes. Et la devise dit: en essayant continuellement, on finit par réussir. Par conséquent, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Merci Jean Dubovetsky. Je rappelle donc qu'on vous retrouve sur internet via votre blog Docteur Antiknox, sur Radio Albides aussi une fois par mois. On peut vous retrouver en podcast aussi en passant par notre site. Je crois que vous avez déjà fait 3 émissions sur nos ondes. Voilà, merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui souhaiteraient s'exprimer un peu dans la salle, réagir aux propos de Jean Dubovetsky?
Ah oui, parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Hein.
Ouais. Alors, monsieur, une question, une réaction?
Réaction? Je vais faire court. Donc, je suis malade, donc je ne risque plus de tomber malade, c'est l'avantage. Du fait que je sois malade, j'en fais une expérience nouvelle, une aventure nouvelle. De ce fait, je suis en bonne santé. Donc. Bon, je peux en dire plus, mais je laisse la parole. Je suis malade avec une maladie relativement grave, donc j'ai des risques de mourir. Je suis pas malade de la grippe. Hein.
C'est une très très bonne question. Il y a des maladies, alors ça va dépendre de quelle maladie et de quelles sont ses conséquences. Je ne vais pas vous interroger à ce sujet. Hein. Mais d'abord, il y a des maladies qui ne sont pas forcément des maladies. Il y a des maladies qu'on appelle maladies parce que c'est pratique et tout le monde les appelle maladies et qui n'en sont pas toujours. Alors je vais donner un exemple qui tombe quasiment sous le sens, c'est la dépression mentale. On considère souvent que avoir une dépression, c'est être malade. C'est pas toujours vrai. Il y a des dépressions qui sont extrêmement positives. Pour donner un exemple de manière dont peut se dérouler une dépression positive, en général, quand on est de psychologie habituelle, on va dire dans notre société en tout cas, on n'envisage pas sa propre mort. Pendant toute la période de l'enfance, l'adolescence, l'âge jeune adulte, l'âge adulte moyen, on ne pense pas qu'on va mourir un jour. On fait comme si ça n'allait pas arriver, ou presque. Oui, on envisage la retraite, on envisage peut-être ce qu'on va laisser à ses enfants, mais ça reste quelque chose d'un peu théorique et lointain. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose à quoi on pense vraiment. On peut l'envisager comme une hypothèse, mais on n'y pense pas vraiment. Et il vient forcément dans la vie un moment où il se passe quelque chose qui vous oblige à y penser vraiment. Alors, ça peut être parce que vous tombez malade personnellement, par exemple, vous faites un infarctus du myocarde, ou bien votre conjoint, ou quelqu'un de proche, ou un enfant, tombe malade avec quelque chose qui menace la vie. Un cancer, un accident grave, une agression, une maladie infantile grave aussi, par exemple une anomalie cardiaque ou une déshydratation grave chez un enfant. Et tout d'un coup, on est confronté avec cette idée que la mort va arriver soit dans l'entourage proche, soit pour nous-mêmes. Et un certain nombre de gens réagissent par ce qu'on appelle une dépression. C'est-à-dire que leur cerveau est tellement occupé par cette pensée importante et ce problème à régler, qu'il n'est plus capable de grand chose d'autre. Et du coup, ils n'ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient d'habitude, ils n'arrivent plus à travailler, ils sont dans leur coin assis et ils ruminent, et ils sont malheureux, ils ne sont pas bien. Et il faut un certain temps avant de sortir de cet état. Quand ils en sont sortis, dans un certain nombre de cas, c'est en ayant plus ou moins admis que finalement, contrairement à ce qu'ils avaient cru pendant 50 ans ou quelques, ils sont pas Dieu et qu'ils sont pas immortels, et qu'il va falloir recomposer sa vie en tenant compte de ce détail. Et bien ça, est-ce que c'est une maladie? Autrefois, ça n'existait pas trop, parce que autrefois, les familles vivaient complètement regroupées, et donc, et puis il y avait une mortalité infantile relativement importante. Ça fait qu'il était impossible d'arriver à l'âge adulte sans avoir vu mourir plusieurs proches. Et donc la mort, elle était toujours plus ou moins présente, tandis que dans notre société à nous, on vit souvent en tout petit groupe, soit en couple avec ses enfants, on vit séparé de ses parents, et puis les enfants meurent peu. Et donc on n'est pas confronté à la mort avant un bon moment. Quand on y est confronté, il faut s'y confronter. Voilà. Et donc, il y a des maladies qui ne sont pas des maladies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour la même raison, quand on est atteint d'une maladie grave, éventuellement mortelle, ou qui sera mortelle un jour, et qu'on traverse ces pensées, où on admet que, ah ben oui, je vais mourir un jour, il peut arriver, pas chez tout le monde, mais il peut arriver que ça amène à un état de quiétude, de satisfaction de la vie, de compréhension des choses qui sont importantes ou pas importantes, et qui fait que finalement, on a l'impression, probablement justifiée, qu'on vit mieux avec plus, entre guillemets, d'efficacité, que la vie, on en profite comme on devrait en profiter, et que finalement, on en profite finalement peut-être mieux que 20 ans auparavant. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, monsieur.
Mais en quelque sorte, c'est ça. Hein. C'est une façon très sereine de vivre tous les instants. Et demain, c'est un autre jour. Voilà.
C'est ça. On a le même phénomène, d'une certaine manière, avec le grand vieillissement. Hein. Nos aînés, quand ils vieillissent de plus en plus, ben, l'impression que j'ai, alors là, je ne vais pas vous dire que c'est une vérité, hein, l'impression que j'ai en les observant, c'est que ceux d'entre eux qui admettent qu'ils vont mourir et qui ont accepté le fait, soit parce qu'ils en étaient capables comme ça, soit grâce à la religion, une spiritualité, à une manière de vivre, ou grâce à leur entourage aussi, parce que s'il y a une question de est-ce qu'on est seul ou pas, et c'est là où les cellules sociales jouent des rôles importants quand même aussi. Les gens qui sont arrivés à cette sérénité ont une fin de vie plus agréable que les autres, en tout cas. Moins angoissée, moins pénible. Et c'est important pour les proches aussi, parce que quand on est proche de quelqu'un qui vit une maladie grave et qui non seulement en est malade, mais qui en est mentalement horriblement affecté, avec une angoisse permanente, et... c'est terrible aussi pour l'entourage, c'est terrible pour tout le monde en fait, voilà.
Merci, est-ce qu'il y a d'autres réactions?
Je voudrais apporter mon témoignage par rapport à la dépression. Il y a 20 ans, j'ai été victime d'une très très grave dépression, et c'est vrai que ça a été très très dur, mais quand j'en suis sortie, j'ai été transformée. C'est-à-dire que j'ai vu la vie autrement, je me soucie moins pour des petites choses. Je sais que j'ai vraiment l'impression que notre passage sur Terre est vraiment très rapide. Je me contente assez de ce que j'ai. Souvent, quand j'entends des gens qui ont beaucoup se plaindre, je leur dis, mais attendez, vous avez une maison, vous avez un travail, vous avez la santé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est vrai que des fois, ça me chagrine un petit peu de voir... un peu l'insatisfaction qu'il y a chez des personnes qui ont tout et qui ne sont jamais contents. Et moi, je sais que j'en ai tiré quelque chose de très positif. Je suis très sensible à l'environnement, à l'écologie, à toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est positif. Même si des choses me mettent en colère par moments, j'arrive à prendre du recul. Et ça a été vraiment, dans ma vie, ça a été un grand, grand changement. Voilà. Donc c'est vrai que on peut en retirer du positif, des choses très graves.
Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public?
Et alors en plus, ce que vous dites, ça souligne bien que, par exemple dans la dépression, mais certainement dans d'autres situations aussi, le traitement n'est pas dans les molécules. Certainement que des médicaments peuvent aider à se sentir moins mal pendant une dépression, à surmonter certains passages difficiles, mais la solution à long terme, elle est dans un changement de manière de penser ou de manière de vivre. Soit on peut y arriver avec ses ressources personnelles ou avec les ressources de son entourage, que ce soit l'entourage très proche ou que ce soit des amis, soit on peut y arriver en discutant avec un ou une psychologue ou avec des gens, en tout cas avec, en discutant par la parole et par la pensée. Et le fait de croire qu'on va guérir une dépression et en tirer tout ce qu'on pourrait humainement en tirer, en fait, rien qu'avec des médicaments, c'est dramatiquement erroné, je pense. Voilà. Le piège est d'autant plus grand que les antidépresseurs sont toxicomanogènes, tous. Donc si on prend un antidépresseur, si on ne fait pas le travail psychologique qui pourrait permettre de tirer les leçons de la dépression et de son origine, et si on essaie d'arrêter le médicament, on se retrouve plus mal qu'avant, on reprend, on finit par se persuader qu'on va en avoir besoin toute sa vie, et finalement on n'arrive jamais à faire le travail qui permettrait justement de s'en sortir par le haut. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas une question de reprocher ça à quiconque. Parfois, on n'est simplement pas en situation d'arriver à ça.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès ou de Radio Air d'Otan, vous écoutez une conférence du docteur Jean Dubovetsky autour de la santé. Une conférence enregistrée lors de la 40e édition de la foire Biocibel, la foire à l'agriculture biologique et aux alternatives, organisée par Nature et Progrès Tarn en juin 2022.
Sur la première question, qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé, que vous avez évoqué au début ? Et pour moi, je dirais que, en ce qui me concerne, c'est de se sentir épaulé par quelqu'un de compétent que l'on peut aller voir et que l'on peut, sur lequel on a tout à fait confiance. Alors là, je vais faire part d'un témoignage, puisque personnellement, j'étais dans une médecine traditionnelle pendant quelques années avec un généraliste qui me voyait 5 à 10 minutes pour un problème que j'évoquais, qui me donnait quelques médicaments et qui faisait que, bon, plus ou moins, on se sentait un peu mieux sur le moment pour rechuter ensuite, jusqu'à ce que je trouve un médecin qui m'a été conseillé sur Toulouse. Il fallait faire le déplacement, il fallait le voir assez régulièrement, et avec qui s'établit une relation tout à fait particulière, puisque ce médecin pouvait me consacrer une heure d'écoute sur le fait de mes problèmes, en envisageant tout ce qui pouvait m'affecter, et me donnant des conseils sur tel complément alimentaire ou alors un traitement alléopathe s'il le fallait, et avec qui j'avais une sérénité, une confiance, où je savais que tout problème pouvait plus ou moins peut-être pas forcément se régler, mais du moins être écouté et être analysé avec soin et avec beaucoup de de précautions pour me donner des conseils. Et là, à partir de ce moment-là, tout en ayant de nombreux problèmes, de ceci, de cela, d'articulation, de problèmes de hanches, de prostate, de rythme cardiaque, de ceci, de ça, tout était quand même relativisé, pris en charge, écouté et plus ou moins traité. Malheureusement, ce médecin est déjà à sa retraite, mais bon, il continue. Et là, il va carrément s'arrêter au mois de février. Donc là, je suis un peu dans le désarroi parce que j'ai peur, effectivement, de perdre mon sentiment d'être à bonne santé, tout simplement parce que il n'est pas évident maintenant de trouver même un généraliste sur Albi ou dans les environs. Et que voilà comment avoir cette sérénité où l'on a un appui et une confiance dans la vie de tous les jours, en pouvant vivre normalement sans se soucier vraiment de sa santé, parce que s'il y a un problème, on sait où le on sait où le reporter et on sait où il faut. Voilà. C'était simplement un témoignage pour dire mon sentiment d'être ou pas être en bonne santé, ça peut être ça aussi.
Ben, ça fait une relativement bonne transition avec la suite en fait. Mais avant de passer à la suite, je voudrais savoir si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire.
En fait, c'était juste pour vous faire répéter le mot savant que vous avez employé en parlant des antidépresseurs. Vous avez dit, ils sont tous, je ne sais pas trop quoi, gènes.
En parlant des ?
Des antidépresseurs.
Ah, ils sont tous toxicomanogènes. Ils sont tous toxicomanogènes comme tous les psychotropes qui ont un effet agréable. C'est assez simple. Vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, vous prenez un désangoissant. Forcément, si ce désangoissant fonctionne, il est plus ou moins toxicomanogène. Vous avez du mal à dormir, vous prenez un médicament, il vous aide à dormir. Forcément, votre cerveau est tellement content de dormir à nouveau qu'il va avoir envie d'en prendre à nouveau. Voilà. Donc c'est vrai de tous les anxiolytiques, de tous les somnifères, de tous les antidépresseurs. C'est plus ou moins vrai suivant les molécules, mais globalement... Notre cerveau aime ce qui lui fait plaisir. Hein. Ça, c'est assez simple.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, Jean, on va se donner 10 minutes pour finir.
Donc, la question qui était posée, c'était la responsabilité des professionnels de santé. Alors, je vais vous donner mon avis à moi, hein, qui est que le mien. Hein. Les professionnels de santé ne sont pas responsables du tout de votre état de santé. D'abord, parce qu'ils ne sont pas responsables de votre sexe. Et ensuite, parce qu'ils ne sont pas responsables de votre richesse, ni de votre éducation, ni de votre niveau social, ni de votre comportement, ni de votre chance ou malchance. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables de rien. Ils ont des responsabilités, mais ils ne peuvent pas vous garantir en aucune manière une bonne santé. Et c'est pour ça que dire que la bonne santé est un droit, pour ce qui me concerne, hein, ça n'a pas de sens. Ce qui est un droit, c'est éventuellement d'être bien soigné, ça oui. Mais la bonne santé, moi, je ne vois pas comment je pourrais vous garantir que vous n'aurez pas demain un cancer mortel en 6 mois. Voilà. Il y en a quelques-uns, ils sont rares, heureusement, mais je n'y peux pas grand-chose. Alors par contre, on a des responsabilités, nous les professionnels de santé, et la première, c'est de ne pas vous rendre malade, si on peut. Hein ? Or, c'est assez facile de vous rendre malade. Il suffit de vous faire suffisamment d'examens. On va bien en trouver un pas normal qui vous rendra malade pour longtemps. Hein ? Alors là, on a un exemple qui est une caricature d'exemple, hein, mais les praticiens de Corée du Sud et la population de Corée du Sud, Dieu sait pourquoi, se sont persuadés que c'était drôlement bien de dépister le cancer de la thyroïde en faisant des échographies à tout le monde. Et alors, ils en ont fait, vous voyez la courbe ? Ils ont fabriqué des cancers qui n'existaient pas. Parce qu'en fait, voilà l'histoire. Vous faites un coup d'échographie, vous voyez une bouboule, vous ne savez pas ce que c'est que la bouboule, alors vous mettez une aiguille dedans, vous regardez au microscope, et là, vous voyez des cellules cancéreuses. Et vous vérifiez, et c'est bien des cellules cancéreuses. Alors vous vous dites, ouh, c'est pas bon ça. Et alors, on enlève la thyroïde. Eh bien, grâce à cette méthode, ils ont réussi en quelques années à multiplier par 13 le nombre de cancers dans la population sans aucune amélioration de la mortalité. Pourquoi ? Parce que ben, dans les bouboules de la thyroïde, il y a des cellules cancéreuses qui ne deviendront jamais actives. C'est des cadenas de rails de cancer, si vous voulez. Vous avez des cellules qui sont cancéreuses, ça fait aucun doute quand on les regarde au microscope. Elles ont tous les critères de la cellule cancéreuse, mais elles ne se multiplieront jamais, elles ne vous feront jamais de mal. Et si on ne les avait pas détectées, vous seriez mort d'autre chose sans jamais savoir que vous aviez un cancer. Voilà, ça s'appelle le surdiagnostic, ce concept, qui n'est pas très facile à comprendre au début. Hein. C'est même un peu heurtant de penser qu'on peut avoir un cancer pas méchant. Mais ça dépend du sens qu'on donne au mot cancer. En réalité, le mot cancer, il a deux significations assez différentes. Vous avez la définition classique, normale, concrète du cancer qu'on a tous, qui est, on se dit un cancer c'est une maladie grave qui risque de nous tuer. Voilà. C'est quelque chose qui va se développer, qui va faire des boules localement et puis à distance, et puis un jour on va en mourir. Et puis il y a une autre définition du cancer qui est la définition dite scientifique, c'est quand on regarde au microscope, il y a des critères, quand on regarde le noyau en particulier des cellules cancéreuses, et quand on regarde, qui font que cette cellule, elle est définie comme cancéreuse. Et oui, tous les cancers dangereux ont ces critères, et non, tous les cancers qui ont ces critères ne sont pas dangereux. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème pour le dépistage des cancers en général, mais en particulier pour le dépistage des cancers de la thyroïde et de la prostate. Du sein aussi. Mais thyroïde, c'est absolument évident, à tel point que même les sociétés savantes concernées directement par le cancer recommandent de ne pas faire ce dépistage. Voilà, c'est pas juste qu'ils recommandent pas de le faire, ils recommandent de ne pas le faire. Voilà. Donc première chose, essayez de ne pas vous rendre malade. Et alors, ça a l'air comme ça, mais on vous rend malade assez souvent, hein. Par exemple, là on n'a peut-être plus le temps, mais un autre sondage, ça aurait été de chercher quelles sont les deux maladies que vous pensez les plus fréquentes et, en France. Et alors il y avait de bonnes chances pour qu'on trouve dans les réponses l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie. Aucune des trois n'est une maladie, en général. Ça arrive qu'elles se soient des maladies. Mais trop de cholestérol, c'est un facteur de risque, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade. Il s'agit de éventuellement diminuer le risque futur de tomber malade. L'hypertension artérielle n'est pas une maladie, sauf quand la tension dépasse spontanément 20, 21, 22 et que ça fait mal à la tête. Mais sinon, une tension à 16, 17, c'est pas une maladie, c'est juste un état qui augmente certes le risque futur d'avoir un infarctus ou un AVC, mais en soi, ça n'est pas une maladie. Et le cholestérol, ça n'est jamais une maladie, sauf quand ça provoque des petites boules là dans les yeux qui sont... C'est des cas très rares et souvent génétiques, en fait. Donc, si on avait fait ce sondage, qu'on n'a pas le temps de faire, probablement on aurait trouvé dans la salle des gens qui pensent que les facteurs de risque sont des maladies, c'est-à-dire que le corps médical a réussi à vous faire croire que des non-maladies sont des maladies. Être malade, c'est quand on n'est plus en bonne santé, c'est pas quand on a quelque chose qui pourrait un jour vous rendre malade. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et alors, l'autre chose, c'est qu'il y a aussi le fait que les médecins ont tendance à s'attribuer des guérisons. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous allez mieux, c'est grâce à eux, quand vous allez moins bien, c'est de votre faute. C'est un grand classique. Hein, ça s'applique très bien, justement, au cholestérol, à l'hypertension, au diabète, qui ne sont pas des maladies, certes, mais en général, quand... un diabétique va mieux, c'est grâce au traitement. Quand il va moins bien, c'est qu'il n'a pas fait le régime comme il faut. L'hypertension artérielle, c'est ou il n'a pas pris ses médicaments comme il faut, ou il a mangé trop de sel, ou il n'a pas fait de sport. En tout cas, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ainsi de suite. C'est assez... Et puis alors, il y a aussi un grand nombre de maladies qui guérissent spontanément. Et alors évidemment, si vous prenez une maladie qui doit guérir en 10 jours... Et au troisième jour, vous donnez un traitement et elle guérit en 10 jours. Et vous dites, ah ben, on a bien l'impression qu'après avoir pris le médicament, ça allait mieux. Ce qui est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que c'est la cause réelle de la guérison. Alors là, on a une pagaille de situations. Hein. On dit couramment qu'un rhume... non traité guérit en 8 jours et traité il guérit en une semaine et un jour. Après, vous avez la majorité des otites, des sinusites, des bronchites qui guérissent sans traitement, en fait. Alors, c'est pas mauvais de prendre du paracétamol quand on a la fièvre et que c'est pénible d'avoir la fièvre. Ou bien quand on est en risque de se déshydrater pour éviter de se déshydrater, mais... L'immense majorité de ces maladies guérissent sans antibiotiques, même quand elles sont dues à des bactéries qui pourraient être tuées par les antibiotiques. Parce que notre corps est capable de se battre contre la majorité des bactéries qu'il rencontre quand même. Quand on est bien nourri, bien, etc. C'est vrai que la situation n'est pas la même en fonction de la situation sociale, par exemple. C'est vrai que si, par exemple, je vois une personne qui vit à la rue avec son chien et qui vient avec une bronchite aiguë, surtout si en outre elle fume beaucoup et si elle se nourrit mal, j'aurais tendance à lui donner des antibiotiques plus facilement que chez une personne qui vit dans une villa tranquille, en famille, qui a un métier tranquille, dans un bureau, et voilà, et qui va très probablement guérir toute seule de sa bronchite. Après, il y a plein de maladies comme les entorses béniles, les lumbagos qui guérissent seules, et un certain nombre d'angoisses et de dépressions mineures. Donc, ne pas s'attribuer de fausses guérisons. Et quand je dis ne pas s'attribuer, c'est vrai alors pour le corps médical, et éventuellement ça peut être vrai pour le patient lui-même, qui peut très bien avoir pris un traitement totalement inefficace, mais qui est suivi de la guérison naturelle, et donc il se persuade que ce traitement est très efficace. C'est pas des choses faciles de raisonner en médecine, en fait. Donc là, ce qu'on peut exiger des médecins en tout cas, ou des autres professionnels de santé, c'est qu'ils s'informent correctement, sans se fier à ce que dit la publicité, donc en évitant ce que disent les laboratoires pharmaceutiques et les lobbies médicaux, qui disent souvent la même chose d'ailleurs, hein, et exiger d'eux qu'ils aient gardé leur esprit critique. Voilà, ça vous pouvez l'exiger. Parce que les shadows ont tort, ce n'est pas vrai que si ça fait mal, c'est que ça fait du bien.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès ou de Radio Erdotan. Vous venez d'écouter une conférence du docteur Jean Dubovetsky, enregistrée lors de la 40e édition de la foire Biocibel, la foire à l'agriculture biologique et aux alternatives, organisée par Nature et Progrès Tarn en juin 2022. A noter que le docteur Jean Dubovetsky propose régulièrement des émissions sur Radio Albigès. L'émission s'appelle Docteur Antiknox, une série d'émissions à retrouver en podcast sur le site de Radio Albigès. A noter que vous pouvez retrouver sur les sites de Radio Albigès et Radio Erdotan les autres conférences enregistrées lors de la foire Biocibel 2022. Merci de votre écoute et al plaisir, brave monde.